Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Il y a 61 ans, le massacre du 17 octobre 1961 à Paris, le président français dénonce des crimes inexcusables pour la République. Emmanuel Macron plaide pour la vérité sur ces événements tragiques. 61 ans après cette tragédie, ce massacre de centaines d'Algériens en plein Paris, notre invité sera l'historien, spécialiste de la période coloniale, Gilles Manceron. La répression des manifestations en Iran, plus de 120 manifestants ont été tués depuis le mouvement de colère déclenché le 16 septembre par le décès de Mahsa Amini. Le Fonds monétaire international va verser 1,9 milliard de dollars à la Tunisie, le pays qui fait face à de graves difficultés économiques a conclu un accord avec le FMI en échange d'un programme de réforme. Moins de clients dans les restaurants en région parisienne et des difficultés pour se faire livrer des aliments, l'une des conséquences de la pénurie de carburant en France. Nous écouterons le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie à Paris et en Île-de-France, Franck Delvaux. Le Qatar, hôte de la Coupe du Monde de football 2022, accueillera la Coupe d'Asie 2023. Ce sera en juin et juillet prochain. Le 61e anniversaire du massacre du 17 octobre 1961. Ce jour-là, des dizaines de milliers d'Algériens avaient manifesté à Paris contre le couvre-feu qui leur avait été imposé. Couvre-feu imposé par le gouvernement de l'époque, dont le Premier ministre Michel Debré était hostile à l'indépendance de l'Algérie. Cette manifestation avait été violemment réprimée, une répression qui a fait entre 200 et 300 morts, selon les historiens. Le président français a qualifié ce lundi ces massacres de crimes inexcusables pour la République. Emmanuel Macron plaide pour la vérité sur ces événements tragiques. Retour sur cette page sombre de l'histoire avec l'historien spécialiste de la période coloniale, Gilles Manceron.
Le massacre du 17 octobre 61 qui a conduit à la mort d'environ 200, on ne sait pas, on n'a pas établi les choses faute de connaissances précises de l'identité des personnes décédées. Mais en tout cas, ça a été terrible. Et ça a été au cœur de la capitale de la France et dans l'ignorance quasi totale des Français de l'époque, avec au contraire un certain nombre de récits fallacieux qui ont été répandus à l'époque par le préfet de police de la Seine et par le Premier ministre à ce moment, Michel Debré. Donc le préfet Papon, donc le préfet de police Maurice Papon, Michel Debré, le ministre de l'Intérieur Roger Frey, ont été au cœur d'une construction mensongère de l'épisode, comme quoi ces hommes étaient armés, avaient tiré sur la police et la police avait dû réagir. C'est faux, tous les éléments et tous les témoignages le montrent. Ce récit mensonger a prévalu dans les discours politiques des institutions françaises jusque aux années 1980, pendant une vingtaine d'années. C'est répété par les autorités françaises. Et c'est seulement dans les années 80, au milieu des années 80, en lien avec un certain nombre de mouvements sociaux dans l'immigration algérienne et ou maghrébine ou étrangère en France, je pense à ce qu'on a appelé la marche des beurs de 83, la marche de 84 qui l'a suivi. La question a été posée de cet épisode ancien de plus de 20 ans, mais qui est quand même très important et très occulté. Il y a eu les travaux d'un historien, non universitaire, Jean-Luc Enaudi, qui ont abouti à des publications, qui ont fait beaucoup de bruit, légitimement. Et donc il y a une réémergence de la mémoire de cet épisode. Fin des années 80, pendant la présidence de François Mitterrand, pas tellement en raison de sa volonté à lui, mais le maire de Paris, Bertrand Delanoë, a fait des gestes. Une plaque au pont Saint-Michel, qui était un des lieux de massacre. Donc il y a eu une réémergence de la mémoire. Ça s'est poursuivi de manière continue jusqu'au 50e anniversaire, notamment où il y a eu une grande marche dans Paris, et au 60e anniversaire, en 2021, récemment, où le président de la République, Emmanuel Macron, a fait un geste, sans prononcer de discours, mais il est allé à un des endroits de noyades et de massacres de manifestants civils algériens, au pont de Beson, pour déposer une gerbe de fleurs. Donc la réémergence se poursuit.
Pouvez-vous nous rappeler le contexte de ces manifestations du 17 octobre 1961, des manifestations à l'appel du Front de Libération Nationale ?
Le gouvernement de la France se trouvait divisé entre 60 et 62 sur la question de la reconnaissance de l'indépendance de l'Algérie. Le général de Gaulle, à partir de septembre 59, a exprimé l'idée d'une autodétermination, ouvrant la porte à l'idée d'une indépendance. Les choses ont avancé ensuite et ont abouti aux négociations dites d'Évian jusqu'au cessez-le-feu de mars 62. Et pendant cette période, les autorités françaises étaient divisées. Le général de Gaulle exprimait cette orientation, mais son premier ministre, Michel Debré, n'y était pas favorable à une indépendance qui aboutirait à une sorte de transition avec le FLN. Et certains des partisans du général de Gaulle en 58, constituant la majorité présidentielle des années 60, début des années 60, eh bien, n'étaient pas non plus favorables à cela. D'où une tension et le massacre du 17 octobre. Les promoteurs de cette répression massive contre l'immigration algérienne en France, qui cotisait au profit du Front de Libération Nationale massivement, et c'était un élément important dans ses finances à lui, eh bien, cette répression, elle a été mise en œuvre par le Premier ministre Michel Debré, le préfet de police de la Seine Maurice Papon, et le ministre de l'Intérieur, Roger Frey. On sait maintenant par la découverte dans les archives de documents qui sont annotés de la main du général de Gaulle, quand il apprend ce qui s'est passé, il commence par dire qu'il faut des sanctions contre les policiers violents qui ont attaqué, frappé des civils, etc., désarmés. Et puis finalement, il ne fait rien parce qu'il ne veut pas que sa majorité se fracture et il est très menacé par une rupture en son sein entre ses partisans de l'Algérie française qui lui mettent des bâtons dans les roues et les ministres sur lesquels il s'appuie, Louis Jox et d'autres, pour faire l'indépendance de l'Algérie en accord avec le FLN. Voilà, donc c'est dans cette situation assez compliquée qui met en exergue les divisions au sein même du gouvernement français qu'il faut replacer le 17 octobre.
Et aujourd'hui, vous nous faites part donc des avancées liées à la reconnaissance de ces massacres.
Oui. Alors, d'une part, le président de la République, Emmanuel Macron, a fait un geste en 2021 en allant au Pont de Besançon déposer une gerbe de fleurs. C'est clair, la signification, mais rien n'est dit. Le communiqué publié par l'Élysée fait allusion à la responsabilité de Maurice Papon, mais il ne dit même pas que c'était le préfet de police de la Seine, et donc un représentant d'une autorité de l'État. Et donc il ne creuse pas cette division dont je vous parlais, qui est au cœur du pouvoir de l'époque. Donc la demande de vérité se poursuit, notamment de la part des associations qui lancent un appel à un rassemblement au Pont Saint-Michel le 17 octobre.
Quelle a été l'attitude de la presse d'opposition après ce massacre ?
La presse d'opposition est diverse, parce qu'il y a une presse qui reproche au général de Gaulle de vouloir faire accepter l'indépendance de l'Algérie. Hein, je pense à des journaux comme L'Aurore, Quotidien, France Soir même, de l'époque, bien que cette rédaction était en partie divisée. Il y a des hebdomadaires aussi d'extrême droite, dirons-nous, Algérie française. Et il y a aussi les forces de la gauche française, les communistes, les socialistes. Il y a une dissidence socialiste importante qui s'appelle le PSU et qui, elle, est hostile à la poursuite de la guerre et qui joue un rôle important, mais qui n'est pas très implantée et représentative. Donc la presse, elle est diverse. dans la deuxième catégorie, ceux qui veulent la fin de la colonisation, il y a par exemple l'hebdomadaire France Observateur qui demande la fin du conflit et soutient le processus de négociation et reproche aux forces de police d'avoir fait cette répression le 17 octobre. Il y a aussi une presse non officielle, je pense au comité Maurice Audin qu'animaient des intellectuels comme Pierre Vidal-Naquet. Je pense à une revue qui a été fondée par Jean-Paul Sartre, Les Temps modernes, qui dénonce aussi cette répression, qui est censurée pour cela. Et alors l'humanité commence à critiquer quand même fortement la répression, poursuit dans cette dénonciation, mais l'humanité n'a jamais été franchement, et le Parti communiste français n'a jamais été franchement, clairement, partisan d'une indépendance de l'Algérie conduite par le suffrage universel, les forces politiques, le FLN en l'occurrence, qui émanait de la majorité musulmane de la population algérienne. Donc, c'était pas clair la position du Parti communiste pendant toute la période de la guerre. Elle devient plus favorable à la signature de la paix à la toute fin de la guerre, après la manifestation de Charonne en février 62. Où là, ce sont des militants syndicalistes et communistes qui sont assassinés par cette police de Maurice Papon.
L'historien Gilles Manceron, spécialiste notamment de la période coloniale. La répression des manifestations en Iran, plus de 120 manifestants ont été tués depuis le mouvement de colère déclenché le 16 septembre par la mort de Mahsa Amini, cette jeune femme décédée 3 jours après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour un voile jugé mal porté. 27 enfants figurent parmi les personnes tuées dans ces manifestations. Le Fonds monétaire international va verser 1,9 milliard de dollars à la Tunisie, le pays qui fait face à de graves difficultés économiques, a conclu un accord avec le FMI en échange d'un programme de réforme. Accord qui comprend notamment la fiscalisation du travail au noir, des mesures de soutien aux ménages les plus modestes, ainsi qu'un renforcement de la transparence au sein du secteur public. La Tunisie, où l'inflation a atteint 9,1% sur un an en septembre, une hausse des prix qui touche très fortement l'alimentation avec une augmentation de 13% par rapport à la même période l'an dernier. La pénurie de carburant s'installe en France. La grève dans les raffineries françaises de Total Energy a été reconduite sur 5 sites. L'exécutif annonce la réquisition de 2 dépôts. La grève va s'élargir dès ce mardi. La CGT, Force ouvrière, Solidaire et la FSU organisent une journée de mobilisation et de grève interprofessionnelle. Cela concernera notamment les transports. Et c'est l'une des conséquences de la pénurie de carburant en France, une baisse de la fréquentation, notamment des restaurants. Le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie à Paris et en Île-de-France, Franck Delvaux, lance un cri d'alarme et évoque également des difficultés concernant la livraison des aliments. Franck Delvaux.
On commence évidemment à voir les premiers effets, qui sont des annulations dans les restaurants, surtout le soir, parce que les gens commencent à faire un choix entre garder quelques litres d'essence pour aller faire des courses ou pour aller travailler, et puis pour les loisirs, donc au détriment des loisirs, donc on commence à avoir des annulations dans nos établissements. Et puis deuxièmement, double effet, c'est que nos employés, en partie, au vu de nos horaires, viennent en deux roues ou en voiture. Eh bien là aussi, on commence à avoir des absences parce que on a des employés qui ont plus d'essence pour pouvoir venir travailler.
Vous évoquez une double peine donc pour votre personnel.
Au niveau de nos clients et évidemment au niveau de nos salariés. Alors en plus, on voit ce qui arrive aussi. On se rend compte que des réunions commencent à être annulées dans les entreprises. On a des annulations de groupe aussi parce que les réunions se refont de nouveau en Zoom ou en Teams. Le télétravail a tendance à s'accentuer ces derniers jours. On voit par exemple la journée de mardi où il y a une grève générale sur Paris, de France, sur la France, mais surtout sur Paris. Bah, ça va être une journée très mauvaise pour nos affaires puisque on n'aura pas de clients, les bureaux sont vides. Et donc, on n'aura personne dans nos établissements.
Vous dites qu'il y a donc un retour du télétravail. Cela rappelle la période de la crise sanitaire, qui n'est d'ailleurs pas terminée, mais surtout la période des différents confinements.
Oui, tout à fait. Alors, on sait qu'il faut à peu près 10 jours pour que les stations soient de nouveau approvisionnées. On sait que Paris-Île-de-France est la région la plus touchée en termes de pénurie. Donc, c'est là où c'est vraiment le plus marqué. La grande différence, vous le soulignez, par rapport à la crise sanitaire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus d'aide. On a nos prêts garantis par l'État, qu'on a commencé à rembourser, où justement le gouvernement ne veut pas nous les étaler sur 10 ans. On a aussi les fluides, les énergies, puisqu'on travaille beaucoup avec le gaz dans nos établissements, qui augmentent fortement, les matières premières. Donc tout ça n'est pas bon. Et en plus, il faut quand même dire qu'on donne... Vous avez par exemple le mondial de l'automobile qui démarre. On ne donne pas une bonne image à nos touristes de notre pays.
Qu'en est-il concernant la livraison des aliments dans les différents restaurants? Est-ce que là aussi, vous avez des difficultés?
Là, évidemment, oui, bien sûr, on a également des difficultés, puisque... les livreurs soit arrivent en retard parce qu'ils n'avaient pas trouvé de gasoil, soit on a une livraison au moins dans la semaine parce que ils essayent de réduire les tournées pour pouvoir économiser un peu d'essence. Donc oui, effectivement, là aussi on est également touché. Nous, on est vraiment on est toujours une profession assez impactée dès que quelque chose ne va pas.
Et il est bien entendu difficile pour vous de vous organiser face à une telle situation. Vos employés sont contraints d'être sur place, vous aussi?
Oui, tout à fait. Alors que l'été, il y a beaucoup de touristes à Paris de France, étaient bien repartis. Là, on voit la situation pas très sereinement pour les jours à venir. Vous savez, c'est le début du mondial de l'automobile. Généralement, le mondial de l'automobile, il y a beaucoup de monde qui vient de province, beaucoup de Français qui viennent à Paris à ce moment-là. Je pense que là, beaucoup ne vont pas venir. En se disant, bon, comment on va circuler, comment on va faire? Mardi, cette grève, où il y aura un impact très négatif. Et puis, il faut dire, si à un moment, il y a un ras-le-bol, on en a vraiment ras-le-bol, on en a marre que quelques personnes bloquent comme ça les stations-service. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose et libère ça.
Vous évoquiez le sort des employés de la restauration et de l'hôtellerie. Vous ressentez une forme d'injustice aujourd'hui vis-à-vis de ces personnes?
Oui, tout à fait, parce que on a déjà sur Paris, beaucoup de nos employés viennent en deux roues parce que c'est pas forcément toujours facile de trouver des transports en commun sûrs à une certaine heure. Alors on a, depuis quelque temps, on doit payer le stationnement des deux roues maintenant à Paris. Et puis de nouveau maintenant, on trouve plus d'essence pour venir au travail pour ceux qui viennent en voiture ou en deux roues. On ne sait pas, on est un peu dans l'incertitude. On a nos employés qui sont là, nous on est là. Est-ce qu'on va avoir du monde? Est-ce qu'on n'aura pas de monde le soir? Oui, effectivement, on ne veut pas repartir dans ce qu'on a connu lors des confinements. On veut vraiment pouvoir travailler de façon sereine.
Le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie à Paris et en Ile-de-France, Franck Delvaux. Le Qatar, hôte de la Coupe du Monde de football 2022, accueillera la Coupe d'Asie 2023. Ce sera en juin-juillet prochain. Cela après le retrait de la Chine, annoncé en mai dernier en raison de la pandémie de Covid. Une annonce de la Confédération Asiatique de Football. Fin de cette édition. Vous êtes bien sûr Radio Orient. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Béatrice de la Valette, adjointe au maire de Suresnes, en charge du dialogue social. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.